Bonjour, vous êtes dans l'émission Fil des notes sur Couleur FM 97.1 et nous sommes ravis de vous retrouver avec Marie, Régis et moi-même. Nous allons donc entamer notre émission au fil des notes. Bonjour Marie.
Bonjour Valérie.
Bonjour, bonjour Régis.
Bonjour Valérie, bonjour Marie.
Bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un grand prodige que vous connaissez tous, je pense. C'est Wolfgang Amadeus Mozart. Alors lui, il est né à Salzbourg le 27 janvier 1756. Et son père, Léopold Mozart, était un compositeur et vice-maître de chapelle du prince-archevêque de Salzbourg. Son père est un professeur de violon prisé. Pour situer un peu l'histoire de ce grand monsieur, nous ne pouvons pas éviter de parler de Jean-Sébastien Bach.
Et en effet, ce dernier est mort 6 ans avant la naissance de Wolfgang Amadeus Mozart. Bach meurt en 1750. Et on le connaît bien sûr, Bach, surtout pour sa musique sacrée. Et quelqu'un a dit « Mozart, vous voyez Dieu, mais Bach le tutoyait ». Belle formule. Mais c'est dire que Bach a été déterminant dans la conception même de la musique sacrée, même s'il a fallu près d'un siècle après sa mort, pour que son œuvre soit redécouverte par Mendelssohn, surtout à travers les passions, passions selon saint Jean et passions selon saint Matthieu. Et il est indéniable que Mozart a été très influencé tout au long de sa carrière par cet héritage. Il s'est illustré bien sûr dans ses opéras, mais peut-être encore plus dans sa musique sacrée. Qui ne connaît pas le Requiem de Mozart ? Il paraît qu'il y a un Requiem de Mozart par jour, tous les jours de l'année, à Paris. Et en région parisienne. Incroyable. Mais il faudrait savoir aussi...
Il était très productif, effectivement.
Il faut savoir aussi qu'il n'en est pas resté là, puisqu'il a composé 11 messes dites ordinaires, 6 grandes messes, et un grand nombre de pièces de musique religieuse, dont le fameux Ave Verum Corpus, l'Exultate Jubilate, la grande messe du couronnement, etc., etc. Mais laissons grandir un peu Mozart et voyons ce qu'il va devenir.
Alors, écoutons un extrait, si vous le voulez bien, de l'Andante du concerto pour piano numéro 21 par le London Philharmonia Orchestra, par Vladimir Ashkenazi au piano et à la direction. Sur Couleur FM 97.1, dans votre émission Au fil des notes.
Thank you.
Un très bel extrait, donc.
Oui, un morceau magnifique. Que j'apprécie énormément. Mozart est un enfant prodige. À l'âge de 4 ans, il aurait joué du clavicorde et à 5 ans, il aurait improvisé des menuets. Il étudie le violon avec son père. Sa sœur Marianne, qu'il appelle Nannerl, de 5 ans son aînée, est également musicienne. En janvier 1762, Nannerl et Wolfgang jouent devant le prince électeur de Bavière à Munich. En septembre, ils sont invités par l'impératrice Marie-Thérèse. En avril 1764, ils sont à Londres, accueillis par Johann Christian Bach, maître de chapelle de la cour. En 1766, ils sont en Hollande, puis de nouveau en France, à Lille, Paris. Ensuite, il part en Suisse, à Munich et de nouveau à Salzbourg.
Et puis en mai 1767, donc il a 11 ans, son oratorio « Die Schuldigkeit des ersten Gebotes » est joué devant l'archevêque. La même année, il compose une cantate, un offertoire, un prologue et une tragédie, rien que ça, cher ami. En 1768, il compose pour la cour de l'empereur à Vienne la « Finta Simplice », un opéra bouffa en trois actes qui est créé à Salzbourg en 1769. Toujours en 1769, il part en Italie avec son père, où il se produit et dirige carrément ses œuvres.
Et toujours cette année-là, donc à l'âge de 13 ans,
productif,
il compose Bastien et Bastienne, inspiré du Devin du village de Jean-Jacques Rousseau. Petite merveille, hein? Petite merveille de musique. À Rome, il transcrit de mémoire le Miserere de Gregorio Allegri, dont il est interdit de recopier la partition. Et quand on entend la partition et quand on entend l'œuvre, la recopier de mémoire,
c'est
chapeau,
fabuleux,
chapeau bas, oui. Vraiment.
C'est pas un prodige pour rien.
Oui, oui, absolument, oui, tout à fait étonnant. Et puis ensuite, il va à Bologne où il rencontre le père Martini. Il est admis à l'Académie Harmonica. Il passe par Florence, Naples et Milan. Et il rencontre des musiciens et découvre leurs œuvres.
En 1770, on lui commanda son premier opéra seria d'inspiration antique. Ce Mithridate Re di Ponte, créé à Milan, assura à Mozart un succès international en tant que compositeur. En 1771, il est de retour à Salzbourg et compose Ascanio in Alba sur un livret de Giuseppe Parini qui est créé à Milan.
Et on pourrait dire que les voyages forment la jeunesse, hein, là, finalement,
oui.
Parce que ce monsieur
oui.
a quand même bien voyagé,
oui.
hein, pour une époque
oui, c'est fou,
où
hein.
il était difficile
c'est
de voyager.
Ouais,
c'est,
oui.
hein. Alors maintenant, sur Couleur FM 97.1, dans l'émission Au fil des notes, nous vous proposons d'écouter un extrait de Così fan tutte, Abbracciami idol mio, par le concerto Köln, dirigé par René Jacob.
Abbracciami idol mio. Thank you.
Guardate, da lontano vi facenno con mano i cari sposi.
Buon viaggio, mia vita, buon viaggio. Oh, dei, come veloce se ne va quella barca. Già sparisce, già non si vede più. Dei, faccia il cielo che mi approspera.
Alors en 1772, l'archevêque de Salzbourg meurt. Son successeur, Hieronymus Colloredo, est moins favorable à Mozart malheureusement. Et la même année, ce dernier accomplit son troisième voyage à Milan pour la création de son opéra Lucio Silia, qui est malheureusement un échec. Il rencontre le compositeur Giovanni Paisiello.
Qui est méconnu aujourd'hui, mais qui a été une gloire en son temps.
D'accord,
ouais. C'est vrai. Absolument.
Que j'avoue que je ne connaissais pas.
Ouais. On en entend un extrait de sa musique dans le film Barry Lyndon.
D'accord.
Voilà, juste
alors,
pour mémoire.
Tout ça au film de Barry Lyndon.
Donc en 1772, Mozart a 16 ans, encore jeune. Hein. Mm. Et sous le joug de Colloredo, c'est un véritable joug, hein, Colloredo c'était pas simple, Mozart crée un vaste répertoire liturgique dont les œuvres les plus marquantes sont la messe du couronnement et la messe solennelle en août mineur. En rupture avec les codes harmoniques de l'Église, la musique religieuse du compositeur s'inspire des références populaires et des opéras italiens qu'il aime tant. Inversement, l'Agnus Dei de la messe du couronnement sera repris dans Les Noces de Figaro.
Qui sont très connues, celles-ci, par contre.
Quel voyage, quand même, hein, entre la musique sacrée et l'opéra.
Ah ouais, hein. Ah ouais.
Alors, en 1773, Wolfgang Amadeus Mozart compose l'Exultate et Jubilate, Köchel 165, à la demande d'amis musiciens, comme l'Ave Verum. Il l'écrivit pour le castrat Rauzzini. C'est une musique à la fois joyeuse et douce, qui invite les âmes à demander la paix.
Eh bien, on en a bien besoin actuellement de demander la paix. Donc écoutez, en quelques mesures, par Kirite Kanawa et le Greenwich Concert Royal Opera House Orchestra, avec la direction de Stephen Barlow en 1991 sur Couleur FM, 97.1 dans l'émission Au fil des notes.
Thank you.
Amadeus se rendit ensuite à Paris, mais l'effet enfant prodige avait disparu déjà. Hein, et le jeune homme de 22 ans, qui n'était plus un petit bonhomme, eh bien, il n'était plus qu'un musicien parmi tant d'autres. Il y tomba amoureux de la chanteuse Aloysia Weber. Un échec amoureux, des difficultés financières. Mozart fut marqué par l'arrogance des aristocrates et vécut la mort de sa mère à Paris en 1778 comme un drame intime. Sa symphonie parisienne, K-297, est un vrai succès.
Et entre-temps, en 1777, franchement...
On avait fait un bond là dans
l'histoire. Incroyable, on avait fait un bond de deux siècles. De seul coup. En 1777, il compose la messe brève en si bémol majeur, pour soliste, chœur et orchestre. Bien sûr, ça n'est pas la plus connue de ses œuvres de musique sacrée, mais j'en parle parce que, très modestement, je vais la chanter en mai prochain lors d'un concert à Lyon.
Alors, voilà. Ce concert à Lyon, c'est où, quand, comment, par qui? Allez, on en profite.
Je vous donnerai toutes les dates.
Non,
je la chante le 19 mai à l'abbaye des Nez.
D'accord, voilà. Donc avis aux amateurs de Mozart.
Et de sa musique sacrée, parce que c'est une œuvre courte, mais qui est extrêmement intéressante. Et pas si facile que ça.
Ça, on imagine, voilà. Oui.
Mais c'est le retour à Salzbourg en 1779, où il prend le poste d'organiste de la cour et de la cathédrale, et qui met fin ainsi à la période la plus sombre de sa vie.
Ouais. Il n'a pas été voilà. Au hasard non plus.
Non. C'est l'année où il compose une des œuvres majeures de son répertoire liturgique, la messe du couronnement, Köchel 317, qu'il aurait écrite en l'honneur de la fête commémorative annuelle du couronnement de la Vierge miraculeuse du sanctuaire baroque de Mariaplein en Autriche. Tout un programme, mais une musique absolument fantastique.
De toute façon, absolument, je crois que Mozart, il a fait que des choses fantastiques. Alors, une autre légende veut aussi que la messe porte ce nom, donnée à une date ultérieure de sa création, au XIXe siècle, soit due au fait qu'elle ait été donnée lors du couronnement de deux princes, celui de Léopold II, roi de Bohême à Prague, le 6 septembre 1791, en présence de Mozart, et puis... par Salieri lors du couronnement de François II de Bohême. Alors en voici un extrait du Sanctus et du Benedictus en la basilique de Saint-Pierre de Rome, le chœur et orchestre de la Philharmonique de Vienne sous la direction d'un Herbert von Karajan en 1985. Et là, vous écoutez cet extrait, cet instant musical sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes.
En 1780, Mozart séjourne à Munich pour la création de son opéra Idomeneo Re di Creta, créé avec succès en janvier 1781. De retour à Salzbourg, il est congédié par le prince électeur et il s'installe à Vienne. Dans l'année 1782, il épouse Constance Weber, dont il aura 6 enfants. Il met en musique un texte de Gottlob, Belmonte, pour la cour de l'empereur Joseph II. Puis en juillet, c'est la création de l'enlèvement au sérail. Et moment important dans sa vie, il adhère à la franc-maçonnerie.
En 1782, bien sûr. On est toujours avec Mozart, voilà. Bien sûr. Mozart compose sa grande messe en ut mineur, Köchel 427. Elle est inachevée et incomplète, mais considérée comme une de ses œuvres majeures de sa musique sacrée. Mozart la compose à Vienne, alors qu'il allait se marier avec Constance Weber, et que sa carrière de compositeur de musique sacrée auprès du prince-archevêque Colloredo était terminée. Mais il avait en effet promis à son père d'écrire une œuvre sacrée s'il parvenait à épouser Constance, qui était alors très gravement malade.
Quel homme !
Eh oui, c'est un beau geste d'amour, ouais. Je trouve, hein, quand même. Cette messe est directement influencée par l'art du contrepoint de Jean-Sébastien Bach. Étant donné l'évidente nécessité d'avoir un texte complet pour l'usage liturgique, il est probable que Mozart a utilisé des parties de ses messes antérieures lors de sa création. Il n'avait pas le temps de tout faire, ce brave homme. Hein.
Alors moi, j'ai une question pour ceux qui n'y connaissent rien. Lorsqu'on parle, vous me parlez de Köchel, c'est ça, 427. Köchel. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Moi, je me fais l'avocat du diable. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est vrai que...
C'est, en fait, chaque... Tu te souviens, WV
oui?
BWV de Bach. Voilà, ben, c'est quelqu'un qui a mis en... qui a fait un répertoire, un catalogue des œuvres, et ce monsieur devait s'appeler Köchel.
Tout à fait.
Voilà, c'est donc monsieur c'est lui Köchel qui a répertorié.
Qui a eu l'idée de répertorier
toutes les œuvres. Pas forcément, je me souviens, j'ai pas les dates en tête, mais pas forcément à l'époque vraiment de Mozart.
D'accord.
Peut-être plus tard.
Bon, bah merci pour l'explication. Moi, je connais pas.
C'est un vrai travail de bénédictin de faire un catalogue comme ça.
Absolument.
Il faut savoir que Bach, par exemple, il y a plus de 1000 œuvres répertoriées.
Oh, mon Dieu.
Près de 1100 œuvres répertoriées dans le fameux catalogue BWV, d'ailleurs.
Ouais, donc ça, c'est vraiment un travail de titanesque, en fait.
Ah oui,
hein,
c'est monstrueux.
D'accord.
Ouais. Enfin, il y a plein d'anecdotes sur Bach, mais là, on parle de Mozart.
On parle de Mozart. Revenons à nos moutons. On se concentre. Voici un extrait de Quitolis par l'orchestre et le chœur des universités de Paris. Direction Pierre Calmelès sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes. On écoute.
Thank you.
Alors, en collaboration avec le grand librettiste Lorenzo da Ponte, Mozart put enfin donner la pleine mesure de son talent avec des opéras comme Les Noces de Figaro, d'après Beaumarchais, et Così fan tutte. En 1787, son père meurt. Et cette même année, il compose Don Giovanni, toujours sur un livret de da Ponte. Si le succès à Prague de Don Giovanni fut retentissant, Mozart continua de souffrir de l'indifférence viennoise et des cabales montées contre lui par ses confrères comme Antonio Salieri.
Ah, c'est Antonio Salieri.
Oui, oui,
il lui a fait des misères.
Je crois qu'en fait, on lui prête beaucoup de tort, mais pas tout à fait à juste titre.
Non,
parce que je crois savoir quand même qu'il y avait une véritable amitié entre les deux hommes.
D'accord.
Ce qui est un peu contraire à tous les clichés qui ont été véhiculés par le film de Miloš Forman.
Une belle légende là derrière. Pas toujours à l'avantage de Salieri.
Et une anecdote quand même pour le Don Giovanni. On prétend que la personnalité du commandeur dans l'opéra représente le père de Mozart, en fait. Celui qui apparaît à la fin de l'opéra comme une statue de pierre, et on sent tout le poids que le père de Mozart pouvait avoir sur lui.
Parce qu'il en avait.
On ne prête qu'aux riches.
Oui.
Mais je pense que c'est pas faux comme anecdote. Ouais. Ça me paraît assez judicieux.
Alors, de retour à Vienne, Mozart obtient le poste de musicien de l'empereur, poste vacant depuis la mort de Gluck. En 1789, il est à Berlin, dans la suite du prince Lichnowsky. L'empereur Frédéric Guillaume II lui offre alors la charge de premier maître de chapelle, qu'il refuse.
Eh bien,
Così fan tutte est sur un livret de da Ponte et donc créé à Vienne en janvier 1790. Malheureusement, c'est un échec. Un moment un peu triste dans la vie de Mozart. Le 14 décembre 1790, Mozart dit adieu à son grand ami compositeur Joseph Haydn, qui part en tournée à Londres. Ils ne se reverront plus jamais, et Mozart le sait. Une sorte de frisson glacé l'envahit déjà. Il se confie à son ami et éclate en sanglots.
C'est triste.
Eh oui. Sic transit gloria mundi. Ainsi passe la gloire du monde.
Ouh, on nous fait des frissons dans l'émission au fil des notes. Là.
Ah, tout n'est pas rose dans l'univers musical,
non,
malheureusement.
Loin s'en faut.
Et le 6 septembre 1791, la Clémence de Titus, sur un livret de Métastase, est représentée à Prague. Mozart interrompt la composition de son requiem pour Die Zauberflöte, la flûte enchantée, sur un livret de Schikaneder, qui est donné triomphalement le 30 septembre 1791. Mozart dirige du piano la première représentation. Emmanuel Schikaneder dans le rôle de Papageno et Aloysia Weber dans le rôle de Josepha Oefer prirent part à cet événement historique.
Et oui, c'est alors qu'il travaillait à ce nouveau Singspiel, œuvre théâtrale parlée et chantée en allemand, sur un thème féerique, la flûte enchantée, je pense que tout le monde connaît, en 1791, que Mozart aurait reçu la visite d'un homme vêtu de noir qui lui commanda, certainement pour le comte Walsegg, qui avait perdu son épouse, un requiem.
Il laissa inachevée cette œuvre ultime et sombre qui sera terminée par Sossmeyer, un de ses élèves. Dans la nuit du 20 novembre, il se sent soudainement très fatigué. Constance fait immédiatement venir le médecin qui décide d'appeler un confrère. Les deux médecins visitent Mozart le 28 novembre et estiment dès lors que la maladie n'est plus guérissable. Mozart n'a plus que 7 jours à vivre. Il meurt à Vienne le 5 décembre 1791 et il est enterré au cimetière Saint-Marc.
Cette année 1791 pour Wolfgang Amadeus Mozart est une année terrible. Terrible parce qu'il décède, bien sûr, mais terrible aussi par l'importance de toutes ses compositions. Une année terrible, mais prolifique donc. Mozart meurt à 35 ans.
Très jeune. Très jeune.
On se dit toujours, si Mozart avait vécu, qu'est-ce que ça aurait pu faire ?
Qu'est-ce qu'il aurait pu...
C'est incroyable.
Comment aurait évolué la musique ? Parce que forcément, il y aurait eu l'influence.
Tout à fait.
Bien sûr.
Donc, il meurt à 35 ans et laisse en une seule année un nombre incroyable d'œuvres, toutes plus belles les unes que les autres, quel que soit leur genre. Entre autres, la flûte enchantée, le requiem, la Clémence de Titus, qu'il doit composer en 3 semaines. Un opéra complet composé en 3 semaines. Et puis donc, au milieu de toutes ses œuvres un bijou, l'Ave Verum, œuvre d'une grande dévotion qui semble annoncer l'au-delà, d'une perfection et d'une maîtrise identiques à celle du Requiem.
L'au-delà dans lequel il est parti.
Exactement.
Tout de suite après.
Ouais. Prémonitoire, la boucle était bouclée, quasiment voilà, ouais, prémonitoire. Ouais. Un bijou. Écoutons.
Alors nous l'écoutons, oui, par le King's College of Cambridge, chœur d'enfants et adultes, dans l'émission Au fil des notes sur Couleur FM 97.1. Écoutons ce bijou. Oui, on était en train de s'extasier sur ce cœur d'enfant. Ouais, hein, oui, magnifique, fait, vraiment, très très beau.
Très émouvant, je trouve. Ouais,
très émouvant.
Et prenant. Donc, aussitôt, les légendes ont proliféré en ce qui concerne Mozart. Puis, avec le temps, elles ont été, bien sûr, comme on le sait, amplifiées par le romantisme. Et Mozart n'est pas mort dans la misère, hein, pas du tout. Il vivait plutôt à l'aise, d'ailleurs. Et malgré 2 ou 3 années de vache maigre, ou bien, on dirait plutôt de dépenses inconsidérées, hein, parce qu'il était très dépensier, Mozart.
Il aimait bien la belle vie.
Voilà, bah, après tout.
Et la bonne vie. Pourquoi pas ?
Ça s'explique en plus, hein, vie courte mais intense. Et malheureusement, il est mort subitement. Peut-être un virus associé à la thérapie de choc de l'époque à base de saignées et de laxatifs qui affaiblissaient les malades. Alors, il a été strictement enterré suivant les ordonnances de 1784 et 1785 imposées par l'empereur Joseph II et encore appliquées en 1791. Il a été mis, et ça c'est terrible, en fosse commune, comme l'était la quasi-majorité des classes moyennes à Vienne. Ah oui, quand on prend le recul, on se dit Mozart dans une fosse commune, ça donne froid au dos. Hein.
Ah oui, pourtant, c'était le sort du commun des mortels.
Voilà.
Hein. D'autant qu'effectivement, toutes les professions, entre guillemets, théâtrales, musicales, n'étaient pas très bien considérées. Hein. Il y avait toujours un petit relent sulfureux autour de ces personnes. Et du coup, on préférait les mettre dans un petit coin à part. Quoi, hein. Voilà, pour la petite histoire.
Alors, sa mort prématurée n'a pas empêché Mozart de devenir l'un des musiciens les plus célèbres au monde. L'importance quantitative, plus de 600 œuvres, et qualitative de la musique mozartienne démontra une immense puissance d'imagination, et ce, dès son plus jeune âge. Il a abordé tous les genres avec talent, symphonie, musique de chambre, œuvres pour pianoforte et concerto, mais aussi musique vocale, œuvres religieuses, sans oublier bien sûr l'opéra. Il composait avec une facilité déroutante et souvent sans corriger ses partitions. Son intuition première était souvent la meilleure. Son œuvre a su synthétiser la légèreté italienne et le savoir-faire contrapuntique des Allemands. Passant de la légèreté à la gravité, les concertos sont de beaux exemples de contraste et de la richesse des couleurs.
Quel génie! Quel génie ce Mozart!
Simplement, oui.
Et quand on écoute ses opéras, Mozart a pu créer ainsi des vrais personnages d'opéra, humains et fragiles à la fois. Pour la première fois dans l'histoire de l'opéra, ce sont également des œuvres engagées, comme les Noces de Figaro, d'après la pièce de Beaumarchais, quasiment révolutionnaire, ou La Flûte enchantée, opéra maçonnique, et qui n'est pas, comme on pourrait le penser, un simple divertissement, mais bien plus que ça.
Et pourquoi alors, si tu peux nous en dire un
c'est
peu
un
plus,
rite initiatique.
Ouais,
la Flûte enchantée est un rite initiatique de la maçonnerie, exactement.
D'accord.
Et tous les personnages correspondent en fait à ce qu'on pourrait appeler le substrat de la,
ouais,
de la croyance
de la
maçonnique. Voilà. Ouais, c'est tout
ils
à fait étonnant.
Une symbolique.
Oui, avec de très très grands symboles, effectivement, tout au long de l'opéra.
Vous pouvez le savoir quand même, ça. Hein. Ça ne s'improvise pas quand on regarde ce genre d'opéra. On n'est pas obligé, quand on est novice, de s'imaginer que forcément il y a une relation entre
et la franc-maçonnerie et on comprend que La Flûte enchantée, composée en 91, c'est-à-dire l'année de sa mort, lui est valu finalement peut-être cet enterrement un peu déguisé.
Ah oui,
quoi.
Parce que du coup, on a fait un amalgame
exactement
entre ce qu'il était dans la franc-maçonnerie.
Tout à fait.
Et oui.
Qui n'était pas très bien vu de la religion catholique de l'époque.
Bien sûr. ça va sans dire.
Quelques décennies après la mort de Mozart, plusieurs tentatives ont été faites afin d'inventorier ses compositions. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure concernant ce cher monsieur Ludwig van Köchel, qui en 1862 a entrepris de faire le répertoire de toutes les œuvres de Mozart dans l'ordre chronologique. Et le cas 626, si j'ai bonne mémoire, c'est le Requiem. Le Köchel 626, c'est le Requiem, si j'ai bonne mémoire. Je ne pourrais pas l'affirmer complètement. Et c'est une vraie référence qui a été, au fur et à mesure des années, et au fur et à mesure qu'on a redécouvert toutes les œuvres de Mozart dans les différentes bibliothèques des villes où il est passé, on a pu compléter ce catalogue. Et on arrive maintenant à un total de 893 œuvres composées en 30 ans, quoi, on va dire. Hein. Donc c'est quand même étonnant.
Une production...
ouais, tout à fait étonnante.
Alors, Mozart, comme on l'a dit, a beaucoup composé et il a composé entre autres 41 symphonies. La symphonie numéro 41 en Do majeur, Köchen 551, c'est la dernière symphonie dite Jupiter, écrite en août 1788. Alors celle-ci constitue le testament symphonique de Mozart, réellement. Hein.
Juste pour l'anecdote quand même, son grand ami Joseph Haydn en avait composé, lui, 104.
Oui, 104.
D'accord. 104
finalement, c'est rien.
Voilà.
Mais il n'avait fait quasiment que ça,
Haydn.
Encore que, non, il a fait beaucoup d'oratorio aussi, et des choses magnifiques. Bref.
Alors, Mozart a composé 18 opéras. Les trois plus joués sont Les Noces de Figaro, opéra en 4 actes, première collaboration avec Lorenzo da Ponte et Mozart, Don Giovanni, opéra en 2 actes, toujours de Da Ponte, La Flûte enchantée, opéra en 2 actes, pardon, de Schikaneder, qui demanda à Mozart de faire un nouvel opéra pour sauver son théâtre. Schikaneder est à la fois acteur et librettiste.
Et à côté de ça, excusez du peu, 27 concertos pour piano.
Et quels concertos ?
Quand on entend, c'est quand même incroyable. Les concertos pour clarinette, pour violon, pour flûte et harpe, des quatuors, des sonates, des menuets, des sérénades, des oratorios, des messes et bien sûr le fameux
Requiem. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre émission. Hein. Ça passe toujours très vite, comme d'habitude. Marie, une petite phrase pour la fin ?
Oui, alors moi j'ai hésité entre deux jolies phrases.
Allez, je t'autorise aujourd'hui, tu peux nous en mettre deux, t'as le droit, il n'y a pas de souci.
Alors il y a une petite phrase que je trouvais très très belle, élégante. Entre force et tendresse, entre gaieté et tragédie, le langage de Mozart est universel. Celle-ci, elle est vraiment prenante aussi, mais j'ai toujours beaucoup, beaucoup apprécié celle de Sacha Guitry, ce monsieur de théâtre qui disait ce qu'il y a de merveilleux dans la musique de Mozart, c'est que le silence qui suit est encore du Mozart.
Oui, ça c'est très beau. J'aime beaucoup cette phrase.
Je crois que c'est le plus bel hommage qu'on puisse rendre à un musicien.
Silence.
Je pense que tous autour de cette table, nous avons été dans des concerts. Et l'instant magique, pour moi, il y a deux instants magiques dans un concert. C'est le moment où l'orchestre s'accorde sur le la du hautbois, qui donne le vrai la. Et puis l'instant qui suit la dernière note,
où
le public
reste
encore suspendu, n'applaudit pas encore.
Il est encore dans l'émotion.
Il attend la suite, mais il n'y a pas de suite. Et là, on touche du doigt la plénitude de la musique. Vraiment.
Ouais. Et je l'avais signalé d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle émission, où je vous avais dit que lorsque j'allais au concert, j'étais absolument incapable d'applaudir
immédiatement. Mais moi,
j'avais ce
aussi,
besoin
vraiment
de calme, comme si je voulais conserver
plénitude,
tout ce que j'avais entendu.
C'est tout à fait ça.
Ce qui n'empêche pas aussi les applaudissements, et il y a des anecdotes fabuleuses qui courent là-dessus, notamment quand Luciano Pavarotti chantait à l'Opéra de la Scala, par exemple, à Milan ou ailleurs. Un jour, il y a eu 45 minutes d'applaudissements ininterrompus, avec un nombre incalculable de rappels pour honorer notre ami Luciano Pavarotti.
Alors moi, mes amis, je vais vous interrompre. Je suis désolée, je suis là pour ça. Je vous applaudis de toute façon, mais je suis obligée de mettre un terme à notre super émission.
Quel dommage.
C'est dommage. Oui. Hein. Marie, merci. Régis, merci aussi d'avoir participé et présenté.
Merci à vous deux. Merci
c'est un plaisir d'avoir présenté cette émission au fil des notes sur ce grand compositeur qui était Mozart, que nous apprécions tous, je pense, ici autour de la table. À très bientôt sur les ondes de votre radio préférée Couleur FM 97.1, la radio de proximité. Alors écoutons pour finir le Lacrimosa du Requiem par le Collegium Vocal et Djent et l'Orchestre des Champs-Élysées dirigé par Philippe Erevegue, et nous terminerons sur cette musique. À bientôt.
À bientôt.